Quand on a rencontré Valentin au Strasbourg Festival et qu'il nous a proposé de passer au Brasseur à Strasbourg pour nous présenter son travail, j'ai d'abord eu en tête les soirées beuveries de ma jeunesse et la formule tarte flambée et bière à volonté. Ensuite, j'ai essayé de me rappeler si j'avais aimé ou pas la bière consommée sur place, mais pour être honnête, j'en avais pas gardé un souvenir impérissable. Valentin nous a quand même bien vendu le truc et on a fixé rendez-vous un matin pendant le brassage et je dois admettre que mon point de vue sur le lieu est bien différent après cette rencontre. Bienvenue dans Bière et Moustache, le podcast qui parle de bière, mais pas que. Alors aujourd'hui, on est avec Valentin au Brasseur à Strasbourg. Est-ce que tu peux te présenter un peu, Valentin ?
Bonjour à tous, Valentin, 29 ans, au Brasseur à Strasbourg depuis le 1er juin de cette année. Et strasbourgeois depuis 2 ans.
Comment on devient brasseur ici ?
Ben, tout simplement après avoir répondu à un entretien d'embauche, enfin une candidature. J'ai postulé et puis on m'a pris.
Mais tu brassais déjà avant, je suppose ?
Ouais, donc j'étais brasseur pendant un an en Champagne-Ardenne, à la brasserie Masclo à Bermericourt, juste à côté de Reims. Et avant ça, j'étais caviste en bière aussi pendant une petite année pour le groupe Mille et une bière à Reims aussi.
Ok, au niveau de ta formation ?
Bac STI génie électronique, une année de BTS en électronique, après beaucoup de métiers divers et variés, et puis j'ai réussi au fur et à mesure à essayer de rentrer dans le milieu de la bière.
Donc une formation sur le tas en fait, t'as appris dans la brasserie où t'étais auparavant, c'est ça ?
Ouais, voilà, donc formation déjà tout seul en faisant des picots brassins, quoi, en 20 litres chez moi à la maison. Ensuite, beaucoup de formation sur la déguste, la zytologie, quand j'étais caviste en bière, parce qu'on avait un zytologue 2 fois par semaine qui venait nous former. Et après, j'ai réussi à faire mon trou dans la petite brasserie artisanale Masclo, où là, j'ai beaucoup plus appris, justement, des brassins de 10 hectolitres en infusion à l'anglaise, bien costaud, quoi. Et là, on apprend.
Et donc ici, vous êtes 2, il y a toi et Laurent.
C'est ça, Laurent. Donc Laurent qui est là depuis 30 ans, depuis l'ouverture de la brasserie. Enfin, la brasserie a ouvert en 91, Laurent est là depuis 92. C'est le druide de la brasserie. Sans lui, les bières ne changent pas, elles ont toujours le même goût depuis 30 ans, c'est aussi grâce à lui.
Et justement, qu'est-ce qui fait un peu la spécificité de cette brasserie ?
La spécificité de la brasserie, c'est déjà l'endroit où on est situé. C'est vrai qu'on est à même pas une centaine de mètres à vol d'oiseau de la cathédrale. Et surtout, ce qui fait la spécificité de nos bières, c'est notre levure. Parce qu'on travaille avec l'université de catholique de Louvain-la-Neuve. C'est avec eux qu'on a travaillé pour fabriquer notre levure. Et donc, elle est qu'à nous. Et c'est notre signature qui fait que nos bières ont ce goût-là, quoi.
Et donc, vous faites vos propres cultures de levure sur place. Et c'est la même levure pour toutes les bières.
Voilà, c'est ça. Donc, tout simplement, comme un boulanger entretiendrait son pétrin, nous c'est pareil. Tous les jours, on en pique un peu et puis on lui remet du mou sur la tronche pour que la levure se redéveloppe et soit prête pour le lendemain, qu'on puisse réensemencer pour le brassin suivant, quoi.
Au niveau de l'installation, vous brassez sur quoi comme matériel ?
Alors, le nom du fabricant, je peux plus vous dire. C'est un fabricant qui n'existe plus, qui vient du Nord. La brasserie a 30 ans, habillage cuivre intérieur inox, bien sûr, brasserie par infusion, 7,5 hecto et chauffe au gaz. Après, système classique comme tout le monde en infusion, hein, on a une bâche d'eau chaude, une cuve d'empattage et une cuve ébue, et puis fermentation dans des fermenteurs en atmo et la garde qui se fait en iso.
Oui, parce que ce qui fait aussi l'originalité, entre guillemets, parce que si ça a 30 ans, c'est pas nouveau, mais on est vraiment sur le principe du brewpub, en fait.
Exactement, on est sur les balbutiements des premiers brewpubs en France. J'ai aucune vocation à dire qu'on est le premier de France, mais pour l'époque, c'est vrai que ça, c'était peu courant d'avoir tout simplement la garde, enfin les tanks de garde qui soient directement reliés aux tireuses. Et nous, ça fait 30 ans que c'est le cas, et donc, ça nous fait des gros fûts de 800 litres, et ça nous évite de faire des fûts, et on en est bien content aussi.
Parce que la production est principalement consommée ici dans l'établissement.
Oui, on va dire, je pense... À vue de nez, hein, j'ai pas les chiffres, mais entre 80 et 85% de la bière qu'on fabrique est consommée sur place. Il y a moins de 5% en bouteille et le reste, c'est en fût où on arrive à se placer comme tout le monde. Hein, on essaye de se placer chez des restaurateurs, dans des bars, dès qu'on peut, dès qu'on arrive à faire de la vente extérieure, tout simplement.
Parce que moi, je vois de l'image que j'en avais en tant que Strasbourgeois, c'était un peu le lieu où on venait, on prenait. Ça existe plus maintenant, il y avait bière et tarte flambée à volonté à l'époque, donc c'était des quantités. assez folle. Est-ce que cette formule, elle existe toujours ou est-ce que vous avez revu un peu les canons, je dirais, de cette formule ?
T'as à moitié tort et t'as à moitié raison. La formule bière à volonté n'existe plus, mais tu as la version flamme à volonté avec un varlet d'un litre de bière. Donc voilà. Et pour éviter tout gaspillage, justement, comme tu as pu connaître dans les folles années, on va dire, voilà, maintenant on se limite à ça. Et puis si quelqu'un a soif, eh ben, il se reprend un verre, il choisit son format 25, 33, 51 litres. Mais au moins, ça nous fait moins de gâchis, quoi. Comme tu l'as vu, c'est qu'elle reste quand même très, très, très artisanal et ça reste très compliqué de brasser en plein centre-ville, surtout avec la place qu'on a. Donc tu te dis, tout le travail que tu fais, si c'est pour qu'il termine dans le caniveau et qu'il soit aussi vite ressorti qu'il est rentré, c'est pas mettre notre travail en avant, quoi.
Et du coup, est-ce qu'il y a toujours cette clientèle, je dirais, étudiante qui vient faire la fête? Là, on enregistre dans le caveau. J'ai toujours vraiment souvenir d'une grosse ambiance assez festive et puis le côté vraiment Vinstube, ambiance à l'ancienne où il y a des grandes tablées, où les gens discutent ensemble. Est-ce qu'on retrouve encore cette ambiance, je dirais pas fête de la bière, mais un peu dans cet esprit, fête de village un peu?
La journée, le midi, pour le service du midi, pas trop. On va vraiment occuper la salle du restaurant et ainsi que la terrasse. Mais le soir, oui, effectivement, les réservations au caveau tiennent toujours. Des fois, on fait des caveaux pleins, 150 personnes, 120 personnes, avec justement la fameuse formule. Donc déjà, sur 750 litres, on retire déjà 150. Ça va quand même très vite. Nous, ça nous aide aussi à consommer notre bière sur place, quoi.
En bas, vous avez combien de tanks de garde ?
En bas, on a 12 tanks de 800 litres de garde. Et normalement, on va démarrer en cuvée bu, on va démarrer à 890 litres normalement. Et puis en volume final en garde, on est à 750 litres. Donc il y a des freintes dues à l'ébullition, il y a des freintes dues au traversage, quand il faut délevurer. Donc à la fin, au volume final, on est vraiment à 750 litres dans les tanks.
Et au niveau de la répartition dans les 12 tanks, tu m'as dit, il y a une majorité de votre blonde, comment la gamme s'articule?
En fonction de la consommation, par exemple en été, la blanche marche tout aussi bien que la blonde, donc on va réaugmenter les tanks de blanche. Mais par exemple, la blanche, c'est l'hiver, il commence à faire froid, les bières légères et rafraîchissantes, on n'en veut plus trop. Là, par exemple, on va calmer le jeu un peu sur la blanche et on va recharger en blonde. C'est vraiment la blonde qui est notre étendard et celle qui est le plus consommée.
Parce que historiquement, la gamme a toujours été la même, je suppose, articulée autour des quatre styles classiques, blonde, blanche, ambrée et une brune. Voilà. Qu'est-ce qui va différencier vraiment votre ambrée de votre brune, par exemple ?
Sur l'ambrée, tu vas être sur un beau travail sur les maltes, pas de sucre ajouté dans nos brassins. Là, on est sur du travail sur les maltes, avec le houblon saz, qui a quand même sa signature, le petit côté épicé en fin de bouche, ça c'est vraiment caractéristique du houblon saz. Et sur la brune, j'aime bien la décrire comme ça. Tu vois une Guinness, c'est la même chose, sauf que c'est beaucoup plus aqueux, c'est beaucoup moins épais en bouche. La bulle est un peu plus marquée, mais qui reste toujours fine et très facile à boire, quoi. Du coup, vraiment. Et puis 4,8 degrés d'alcool, donc on n'est vraiment pas sur quelque chose de très costaud, sur la grosse stout ou le gros porter qu'on imagine. Voilà, c'est quelque chose de très simple, facile d'accès, mais vraiment sur une brune, une grosse brune, la bière est presque noire dans le verre, alors que l'ambrée, tu vas plutôt avoir cette robe à cajou cuivrée, comme une ambrée.
On est finalement presque sur un stout ou un porter, sauf que vous maîtrisez vraiment le degré d'alcool pour que ça reste toujours très buvable, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des bières qui sont là pour accompagner le repas, en fait.
Exactement, ouais, c'est ça. On va parler d'indice de buvabilité, généralement. Non, c'est vrai, on essaye toujours. Il n'y a aucune des bières qui dépasse les 5,2 degrés, il me semble, ou 5,4 degrés, si je ne dis pas de bêtises. Mais on est toujours articulé autour des 5. On est entre 4,8 et 5,2, 5,4, pas plus. Sauf, bien sûr, nos brassins éphémères, où là, si on a envie de se faire plaisir, on se fait plaisir. Mais sur la gamme régulière, comme dit, c'est vraiment le but, c'est d'accompagner des jeunes au plat, donc cuisine généralement traditionnelle alsacienne ou brasserie. Il faut des bières faciles à boire, quoi. C'est ce que attendent les clients depuis 30 ans chez nous, et s'ils reviennent, c'est que ça leur plaît et que c'est assez buvable et pas trop complexe, quoi.
Justement, tu parles toujours de ces 30 ans. Cette année, c'est les 30 ans de l'établissement. Est-ce que vous avez organisé des événements spécifiques autour de cet anniversaire? Est-ce que peut-être il y a une bière qui a été créée pour l'occasion? l'occasion ?
Ben, au niveau événementiel, avec le Covid, c'était un peu compliqué. La reprise pour tout le monde, j'apprends à personne que c'était très dur. Donc, pas spécialement, mais on a quand même fait une ambrée spéciale 30 ans. Donc, une ambrée qui tire à 7 degrés. Là, cette fois, on a chargé un peu plus. Donc, on n'a rien rajouté dedans. On a fait que du travail de malt et houblon. Ça va être la même ambrée qu'on a habituellement, donc, mais avec un côté vraiment beaucoup plus rond, sucré, un peu côté malt à whisky. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Voilà, quelque chose qui prend vraiment bien le fond du palais. Comme 17 degrés, donc faire attention. Un verre, ça va. Deux verres, ça va. Le troisième, ça commence à être flou. Mais voilà quoi. Une ambrée, c'est une vieille recette qu'on a remis au goût du jour, tout simplement, pour célébrer les 30 ans.
Alors, on l'a dit, la majorité de la bière est consommée sur place, directement des tanks sur les becs. Vous faites un peu de keg, un peu de bouteille de temps en temps ou pas du tout?
Bah, on fait de la bouteille vraiment pour les ventes sur place. Si un client il a goûté une bière, elle lui plaît, forcément, on va quand même lui laisser le choix de repartir avec des bouteilles. On a réessayé là pour la 30 ans les tonnelées de 5 litres avec CO2, mais ça n'a pas marché. sinon, voilà, on fait aussi de la bière en fût, en dolium, parce que tout simplement, on n'a pas la place pour avoir un parc inox avec la laveuse de fût et tout le système qui va avec. Donc, on est en dolium et on fait effectivement, comme je te disais avant, un peu de vente dans les restaurants, les bars extérieurs qui veulent bien nous prendre de la bière, quoi.
C'est vraiment aussi une des spécificités de cette brasserie, c'est une brasserie de ville. Donc, qui dit brasserie de ville, dit manque de place. La partie avec des tanks de garde, on est vraiment sur une chambre froide. Le plafond qui est voûté, vraiment à l'ancienne. Donc c'est assez, je dirais, atypique, parce que maintenant, on a l'habitude d'avoir des endroits où on a quand même pas mal de confort de travail, où il y a beaucoup de place. Est-ce que c'est pas compliqué de gérer ça au quotidien, ce manque de place ?
Je t'avouerai qu'au début, effectivement, j'ai été vachement surpris, c'est le cas de le dire. Après, on s'y fait, c'est comme tout, quoi. Effectivement, ça nous demande beaucoup de logistique. En fait, on a un entrepôt logistique, du coup, qui est situé au port du Rhin, pour les Strasbourgeois. Ça nous implique de faire des navettes, tout simplement. Dès qu'on n'a plus de malt, aller chercher notre palette de 800 kg de Pilsen, nos malt spé, et puis on décharge tout à la main, pour les verres, les fûts, même la verrerie du restaurant, c'est pareil, on n'a pas la place de stocker les palettes, donc c'est vraiment c'est l'enjeu, c'est la logistique, mais avec de l'organisation on y arrive et ça se passe très bien. Mais comme tu dis, déjà nous, rien que la brasserie, elle est située sur trois niveaux différents. On a la partie cave, on a la partie au-dessus, la salle à brasser avec le bloc chaud et le concassage qui se fait encore un étage au-dessus. C'est un boulot de brasseur classique, sauf que au niveau kilomètre, si tu prends un podomètre, tu te rendras compte que tu vas gratter 4-5 km à la journée.
C'est aussi ce qui va faire le charme de l'établissement, c'est que la salle de restauration, elle est construite autour de la salle à brasser, en fait.
C'est vraiment l'idée. Moi, par exemple, quand j'ai fait mon entretien d'embauche, je vais te dire comment on m'a présenté cet endroit. C'est d'abord la bière, la brasserie, parce que dans ces murs, depuis 1743, on brasse, donc on veut vraiment entretenir ce passé brassicole. Et autour, on propose de la restauration pour tout simplement bien accompagner les bières, quoi.
C'est une brasserie avant d'être un restaurant, en fait.
C'est vraiment ça, c'est une brasserie. Y a de toute façon, si tu veux boire de la bière, il n'y a que nos bières en pression. Y a la consommation de vin, par exemple, chez nous, c'est pas on fait pas les consommations de vin d'un restaurant classique. Nous, on va beaucoup plus mettre en avant notre bière. En même temps, quand le client arrive, on est encore en train de brasser, généralement vers midi on démarre l'entonnement, donc on va passer en fermenteur, on refroidit tout simplement notre moût porté à ébullition, et puis on le passe en fermenteur, et c'est là aussi où on va faire notre propagation de levure et notre levurage. Donc les clients arrivent quand même à voir un peu de ce qu'on fait durant le brassin, donc forcément ça le fait aussi, et ça a un impact visuel aussi qui plaît beaucoup aux clients.
Quand tu m'as dit on brasse sur place, j'ai dit mais oui, c'est vrai, parce qu'il y a effectivement l'outil qui est présent. Souvent quand on vient manger ici, vous n'êtes pas forcément en train de brasser, donc on pourrait penser que c'est du décorum, surtout dans un endroit très touristique sur la grande île proche de la cathédrale. On pourrait se dire depuis longtemps ils ne brassent plus sur place, c'est, je dirais, l'outil de brassage reste sur place pour la décoration. Mais en fait non, vous êtes vraiment toute la production est exclusivement faite sur place. Comme tu disais, vous travaillez votre propre levure, une souche que vous entretenez depuis 30 ans. C'est un vrai, vrai travail à l'ancienne et une vraie tradition brassicole, en fait, dans l'établissement.
Exactement. T'as tout résumé, hein. Nous, on brasse le matin de 6h à 14h. C'est l'horaire classique d'un brassin. Ça nous prend 8h du démarrage avec le petit café, bien évidemment, comme tout le monde. Et après, on démarre, on se met au boulot. Et à 14h, là on est censé vraiment avoir fini et recharger notre cuve-bu en eau chaude pour le lendemain pour redémarrer la stérilisation du brassin suivant.
Parce que vous faites 5 brassins par semaine, c'est ça?
Alors en temps normal, oui, là maintenant avec le Covid, ben forcément les consommations ne sont pas encore remontées à leur taux normal. Donc là on est plutôt sur une moyenne de 3,5 brassins par semaine. Il y a des semaines on va en faire 3, d'autres 4. Mais voilà, on espère retourner vite à ces 5 brassins semaine du lundi au vendredi, tous les jours, quoi.
Toi, tu viens d'arriver dans l'établissement, donc tu n'as peut-être pas forcément le recul là-dessus, mais en discutant avec Laurent, ton collègue qui brasse avec toi, est-ce qu'il a remarqué ces derniers temps une sorte de changement de clientèle avec justement la mode des brewpubs qui revient? Est-ce qu'il y a des gens qui reviennent parce que la bière est brassée sur place, ou est-ce qu'on reste sur une clientèle, je dirais, plus touristique de par l'emplacement de l'établissement?
Ben, c'est assez compliqué à répondre à cette question. On a vraiment une clientèle vachement éclectique. Ça peut aller... on a beaucoup d'étudiants, par exemple, ben parce qu'on peut manger et boire une bière à pas cher. Tu vas avoir énormément de touristes du fait de la proximité de la cathédrale. Tu vas avoir des locaux qui vont venir, par exemple, manger le midi. Ça, on en a pas mal. Ou bien boire un verre le soir, profiter de l'happy hour. C'est vraiment complet. Il y a de tout. Vraiment, il y a de tout. Même au caveau, tu vois, les réservations, ça peut être des locaux, des assos étudiantes, des touristes. Ça varie tout le temps, quoi.
Et avec ton arrivée dans la brasserie, avec peut-être un œil plus jeune, je dirais, est-ce qu'il y a des projets d'évolution spécifiques, par exemple sur des nouveaux styles que vous souhaitez brasser, ou sur faire peut-être plus de bières éphémères? Parce que là, vous faites combien d'éphémères par an à peu près?
On tourne à une moyenne d'une éphémère sur un mois et demi. Ben, tout simplement, il faut déjà que le tank soit vide pour pouvoir rebrasser une autre éphémère. Donc là, en plus, en ce moment, on a la période de Noël. Donc là, on brasse déjà les bières de Noël. Donc c'est encore différent. Après, sur les marges d'évolution, Laurent et moi, il faut savoir qu'on gère vraiment toute la brasserie de A à Z. Donc que ce soit de nos achats, nos fournisseurs, le SAV, si on doit réparer et faire de la maintenance, quoi, tout simplement. Par exemple, moi, j'ai proposé directement en arrivant d'informatiser entre guillemets les brassins, c'est-à-dire Beersmith pour les connaisseurs, de se servir de Beersmith et de paramétrer en fait la brasserie pour qu'on puisse se servir de ce logiciel qui est quand même super sympa. Puis ça nous laisse par exemple beaucoup plus place à la créativité, parce que y a des fois quand tu veux tenter des trucs mais que tu sais pas du tout ce que ça va donner, là au moins ça nous permet déjà de simuler à l'avance et d'être beaucoup plus rassuré en fait, si tu veux, avant de se tenter dans quelque chose, parce qu'on n'a pas de picot pour faire des brassins test. Donc notre brassin test, il fait 750 litres. Donc là, ça va nous aider déjà à y voir plus clair.
Qui dit tradition dit parfois un peu secret de fabrication. Justement, tu parlais de Beersmith, il y a d'autres logiciels qui des fois permettent de partager un peu les recettes. Est-ce que c'est des choses qu'on peut imaginer dans le futur, ou est-ce qu'il y a vraiment un peu, notamment avec la culture des levures, on sait que c'est quelque chose qui est compliqué, faut savoir le faire. Donc est-ce qu'il y a, un jour on se dit tiens, jamais j'ai bien aimé l'ambrée au brasseur, est-ce que je peux la refaire chez moi? C'est des choses qui sont éventuellement prévu, ou alors il y a vraiment ce côté un peu secret de fabrication?
Je vais pouvoir te répondre partiellement. Donc les recettes ont 30 ans déjà, donc même si elles subissent quelques petites évolutions pour s'accorder au goût du jour, mais je peux pas vraiment te dire. Après quand il y a des passionnés qui viennent papoter bière avec nous, on n'hésite jamais à discuter avec eux. Ça nous est déjà même arrivé de leur dire tu connais le houblon Elixir, non? Viens, je t'enfile une poignée. Le brasseur amateur repart chez lui avec 40 grammes, on lui demande rien. C'est juste de l'échange, de la passion. On ne va pas vraiment diffuser nos recettes, mais on aime bien partager, et la personne à qui porte de l'intérêt à ce qu'on fait, forcément on va aller dans son sens. On n'en verra jamais quelqu'un paître alors qu'on nous pose des questions sur notre bière et qu'en plus on y porte de l'intérêt. Ce serait complètement stupide, quoi.
C'est une notion qui est hyper importante, j'ai l'impression, chez les brasseurs. Toujours, c'est ce côté partage, et on aime bien parler de son métier, on aime bien parler de l'histoire de la brasserie, on aime bien parler de l'outil. Et je l'ai vu avant, en discutant un peu avec toi et puis avec Laurent, il y a vraiment aussi cette envie de transmission qui est présente ici.
Vraiment, comme tu dis, ça, après, je pense que c'est... Je trouve vraiment, après c'est ma vision des choses, mais le milieu brassicole s'y porte vraiment, en fait. Moi, je suis arrivé là-dedans, si tu veux, par exemple, quand j'étais dans mon ancienne brasserie, j'ai fait un salon de l'agriculture. T'arrives dans une halle, t'as 150 brasseurs ou 100 brasseurs au moins qui sont exposants, qui viennent de France et de Navarre. Tous les matins, moi, avant l'ouverture, je prenais un carton de 24 de chez moi, Et puis j'allais voir d'autres brasseurs, je disais « Salut, je suis brasseur en Champagne-Ardenne, tu fais quoi comme bière? Tiens, je te file un peu des miennes, tu me files des tiennes, ah ouais, tu travailles comme ça, super cool. » Enfin voilà quoi, moi c'est là-dessus, c'est vrai que c'est, tu le vois par exemple, on s'est rencontrés au Craft Beer, le contact, et c'est directement fait en fait. Quand un brasseur parle à un brasseur, on sait déjà à quelle langue on va parler, donc on est déjà sur le même champ lexical, quoi, donc ça favorise vachement les choses. Un passionné qui parle à un passionné, bah forcément ça peut que donner des belles choses et l'envie de continuer, quoi, et d'entretenir justement ce bon côté, tu vois. Pareil, ça nous est déjà arrivé de dépanner des brasseurs qui sont à côté sur Strasbourg, et nous aussi de nous faire dépanner par des brasseurs. Ça, c'est vrai que c'est un côté cool du métier, on aime bien partager, échanger et sauver les miches quand on en a besoin, quoi.
Justement, vous avez peut-être une place, je dirais, particulière sur la place strasbourgeoise, parce que vous êtes un établissement qui est ancien, qui a une histoire, comme on dit, de 30 ans. Vous travaillez comme une petite brasserie, en fait. Quels sont les rapports avec les brasseries qui sont, je dirais, plus récentes et qui ont une histoire plus récente sur Strasbourg? Est-ce qu'ils vous considèrent comme une petite brasserie, ou est-ce que vous avez vraiment, vous n'êtes pas une grosse brasserie type Heineken, tout ça, mais vous êtes quand même une brasserie historique. De par l'ancienneté, vous n'avez pas le côté néo-brasseur, machin. Donc, c'est un peu spécial comme positionnement, non?
Effectivement, c'est aussi dû, c'est nos choix, et puis c'est dû aussi, par exemple, à la clientèle qu'on a. Hein. Nous, on peut pas se permettre de faire des doubles dry hop, triple cryo, IPA, milkshake, sour, mangue, pastry, et j'en passais des meilleurs. On a notre public est tout simplement pas prêt à ça. Après, l'image qu'on a, moi, je peux pas te dire, moi personnellement, quand je vais dans une brasserie strasbourgeoise, j'arrive, je dis salut, je suis Valentin, je suis brasseur au brasseur. Ah ok, t'es au brasseur, c'est cool. Et voilà, après, je pense qu'on n'a pas vocation à cracher sur quelqu'un, et les autres, je pense pas non plus. Enfin voilà, les rapports sont bons. Moi, je vais de temps en temps, par exemple, à la Roue Libre, ça se passe toujours très bien. Petit fun fact, le brasseur de Roue Libre était serveur chez nous il y a quelques années de ça. Christian de la Perle, je le connais aussi. En plus, il est le représentant de la copro des artisans brasseurs d'Alsace, donc forcément, des fois on s'est rencontrés sur des réunions. Et puis tous les interlocuteurs que je croise aux brasseurs d'Alsace, par exemple, les rapports sont bons, cordiaux, que ce soit du gros groupe comme Licorne ou Météor, aux petites brasseries, quoi. Il y a vraiment après, comme dit, moi je suis nouveau, j'arrive là-dedans, j'essaie de faire ma place, mais moi je suis toujours friand de curiosité, de savoir comment les voisins font. C'est pas pour les copier, non, c'est juste pour ma culture, ma passion bière, et puis j'ai toujours hâte de goûter une nouvelle bière, surtout qui vient de chez moi, quoi, de mon coin, de ma ville. J'ai envie d'y goûter, quoi, tout simplement.
Il y a un vrai ancrage local. Par exemple, au niveau des houblons, vous travaillez avec qui?
On travaille avec la Copoudale, enfin le comptoir agricole. C'est vrai que nous, on est Strissol Aramis pour nos houblons. On a juste une petite particularité, on utilise aussi du houblon Saz. Par contre, on va le chercher encore à Adzatech, l'ancienne coopérative d'État de ex-Tchécoslovaquie. Voilà, on travaille toujours avec eux pour le houblon Saz, pour essayer de se rapprocher du Saz, qui est le plus proche du Saz, quoi, tout simplement. Du vrai Saz, comme dirait mon collègue Laurent.
Vous travaillez principalement des variétés de houblons alsaciennes.
Voilà, c'est vraiment le but. On essaye d'être aux fournisseurs aussi les plus proches. On fait tout ce qu'on peut pour être Made in Alsace. En même temps, ça fait partie aussi de notre passé, présent et futur, quoi.
C'est quelque chose dont les gens parlent beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir un terroir dans la bière? Et est-ce que travailler justement des houblons majoritairement alsaciens, est-ce que c'est pas aussi une manière d'essayer de travailler le produit d'essayer d'apporter peut-être une sorte de touche terroir à vos bières?
Effectivement, je pense que c'est aussi notre volonté. Moi, personnellement, je trouve ça complètement débile d'aller acheter du houblon aux États-Unis ou en Allemagne, alors que on est quand même la région première productrice, on a la première région productrice de houblon en France, donc ce serait complètement stupide d'aller faire 800 km pour aller chercher du houblon, alors qu'on en a à 15 km, quoi.
Oui, surtout que vous avez des styles de bière qui sont, je dirais, simples, donc vous n'avez pas forcément besoin de houblons ultra aromatiques.
Oui, effectivement. Bah, par exemple, pour les dry hopping ou des choses comme ça, on va le faire sur nos bières éphémères. Mais donc, c'est sur un brassin éphémère où on va s'amuser, on va se donner des libertés. Mais habituellement, sur notre gamme classique, voilà, on va travailler tout simplement le houblon, bah, comme tout le monde, hein, amérisant début, et puis en fin début, l'aromatisant, quoi.
Au niveau des maltes, vous travaillez avec qui ?
La malterie soufflée, donc malterie qui vient de l'Aube.
Combien de types de maltes différents ?
Petite dizaine, entre 7 et 10, je dirais. Après, voilà, bah, sur notre brune, par exemple, il y en a déjà 5, et sur l'ambré, 4. Donc, c'est pas les mêmes forcément dans l'ambré que dans la brune, donc plus le malt de blé, bien évidemment, pour les blanches. Après, sur nos éphémères, bah, de temps en temps, quand on regarde le catalogue de chez Soufflé, on se dit « Ah, oh, tiens, il y a une nouvelle variété, si on essayait ?» Bon, ben bah, voilà, on va essayer de prendre 50 kilos ou 150 kilos pour faire un essai sur nos brassins éphémères, et puis on voit ce que ça donne, mais au moins, ça nous permet de nous faire une idée, et puis de rester toujours un peu à la page et de savoir qu'est-ce qui se fait, et voir pourquoi pas, si y a un malt ou un houblon qui fait mouche, l'intégrer à nos recettes, quoi.
Vous avez un travail, je dirais, assez classique sur les houblons, mais j'ai l'impression que vous avez un gros travail sur le malt. Beaucoup de malts différents dans les recettes. Il y a vraiment une grosse réflexion sur le malt, non ?
Effectivement, ouais, Laurent a vraiment composé les recettes avec des gros travaux sur le malt. Et ça se ressent dans la bière, sur la fin de bouche, par exemple sur une ambrée. Voilà, la fin de bouche de l'ambrée, c'est vraiment sympa. Et là, on sent toute la complexité aromatique où je te ferai goûter là 30 ans. Après, tu verras, vraiment, là, c'est intéressant parce que finalement, en houblon, il n'y a que du 100% saz. Donc, le petit côté épicé, ok, tu vas l'avoir du houblon. Mais sur tout le reste, tu sentiras bien que y a pas mal de travail aromatique qui est fait avec le malt.
Ah, donc il y a vraiment un affinage au fur et à mesure des années sur les recettes, que ce soit le travail du malt, mais également cette fameuse levure que vous faites sur place. Est-ce que c'est pas compliqué d'être limité entre guillemets, d'avoir une seule levure à travailler, ou est-ce que justement ça pousse à être plus inventif peut-être ?
C'est l'avantage et l'inconvénient de travailler en levure fraîche et d'avoir ta levure. Nous, on n'a qu'une souche effectivement pour toutes nos bières. C'est plutôt un inconvénient, je dirais. Ben, tu vas retrouver des mêmes notes sur toutes les bières. Forcément, la levure te laisse des esters qui sont typés de cette levure, c'est notre signature. Et après, l'avantage, c'est que personne ne peut nous copier. Voilà, c'est chaque brasserie qui travaille en levure fraîche, c'est pour ne pas être copié, c'est pour avoir sa souche et faire sa signature gustative, olfactive, visuelle. Voilà, l'allure, c'est le plus important dans une bière. Pas de bras, pas de chocolat, pas de levure, pas de bière, quoi.
Justement, le fait qu'il y ait une certaine cohérence dans toutes vos bières due à cette levure, est-ce que vous travaillez parfois des paddles où on va prendre par exemple 4-5 bières de 10 centilitres pour vraiment découvrir la gamme comme ça à la suite, pour essayer de retrouver, je sais pas si vous avez forcément la clientèle, mais est-ce que vous proposez ça? Par exemple, si moi je me dis je veux vraiment découvrir vos bières, ça peut être intéressant de goûter toute la gamme sur des petites quantités pour essayer de retrouver les subtilités de la levure par exemple. Est-ce que c'est des choses que vous proposez?
Oui, exactement, c'est la palette de dégustation, hein, classique. Donc quand il y a une éphémère, tu as 5 bières sur ta palette, et sinon tu en as 4, la gamme régulière. Mais effectivement, on le propose, ça, tu peux venir passer à la brasserie et puis découvrir les 5 bières les unes derrière les autres en 12,5 centilitres, donc un format, voilà, au niveau buvabilité, c'est quand même assez cool, ça te laisse le temps de découvrir, de goûter sans en avoir trop peu, mais ni trop. Puis de toute façon, comme dit, même si on a une bière en fermentation, si tu viens nous parler au brasseur ou en garde, souvent au frais en bas, dès qu'on a une petite bière qui est pas encore à la carte et que t'es un habitué ou un passionné de bière, si on a le temps, avec plaisir, on ira te tirer un petit verre au robinet d'échantillonnage et te faire goûter, bon, même si c'est dégazé, mais tu auras déjà une idée de ce que ça va devenir quand ce sera au tirage pression, quoi.
Tu sais que tu prends un risque en disant ça et que tout le monde vienne te vous harceler pour goûter les bières au tank.
Après, c'est selon notre temps aussi. Si je suis en train de brasser, si je suis en train de dredge, normalement quand je dredge, il n'y a personne, mais si je suis occupé et que je dois faire quelque chose, là malheureusement, je te dirais de repasser ou d'attendre qu'elle soit en pression. Mais de toute façon, je dis toujours, pour être brasseur, faut être passionné. Donc voilà, c'est toujours un plaisir d'échanger et de partager avec les clients.
Ok, bon, maintenant qu'on a parlé de ces bières, est-ce qu'on en goûterait pas une ou l'autre ?
Avec grand plaisir. Tu me dis par quoi tu es tenté.
C'est toi le brasseur, hein. Moi je me laisse guider.
Eh on parlait de la palette dégustation. Si tu as envie de faire une petite dégustation des 5, on va y aller.
Bon, du coup, malheureusement, on va pas pouvoir boire toute la gamme parce qu'il est en Corto, mais on a dû faire un choix. Après les avoir toutes goûtées, t'en avais parlé avant, effectivement, il y a cette brune qui est vraiment intéressante. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus précisément ?
Quand tu la vois, t'as l'impression de voir une Guinness. Tu vas te dire, ouh, ça sent le gros stout, je vais en boire une, je vais ramper par terre. Pas du tout, c'est tout l'opposé en fait. Super légère en bouche, la mousse, toujours une belle mousse comme sur les Guinness. 4,8 d'alcool, donc ouais, vraiment très faible. Moi, ce que j'adore vraiment, c'est... après, je suis fan de café déjà de base, mais t'as vraiment ce côté café froid, super bon, super rafraîchissant. Et c'est une brune où j'aurais aucun scrupule à la boire en pleine canicule, tellement qu'elle est légère et qu'elle est rafraîchissante.
Ouais, c'est vrai, c'est ce qu'on retrouve justement, on parlait du travail du malt qui est très important chez vous, et on le retrouve, enfin moi j'ai l'impression que c'est un peu la bière qui peut caractériser ça, parce qu'on va avoir effectivement ce côté très foncé, on a une vraie jolie mousse qui peut effectivement faire penser à la Guinness, comme tu disais, une mousse qui est assez épaisse, assez fine, et finalement en bouche on va retrouver quelque chose de léger mais en même temps complexe, et finalement avec un taux d'alcool qui est très bas. Ouais, c'est un joli tour de force cette bière, parce que voilà, on va retrouver le côté rafraîchissant mais avec le côté intéressant qu'on va avoir sur des bières vraiment maltées.
Je pense que t'as tout dit, voilà, c'est ouais, moi c'est vraiment une petite Madeleine de Proust, ça se laisse boire tout seul, je trouve limite, bon après c'est chacun ses goûts, hein, mais moi je préfère me boire ça là maintenant, tu vois, comme on fait, que de taper une blonde ou une grosse ambrée, c'est ce qu'il y a de plus gourmand pour moi et rafraîchissant à la fois. En même temps, c'est ultra complexe comme bière, et comme dit, ben, nous aussi nos levures justement elles vont laisser beaucoup d'ester, donc là ben, le tour de force c'est essayer de cacher justement le plus possible les esters un peu fruités qu'on a dans notre levure, et aussi bah, le travail de la mousse. Mais bon, là, à part jouer sur les températures d'empattage, on va pas pouvoir faire grand chose parce que bah, c'est quand même notre levure aussi qui va avoir le plus d'influence sur notre type de mousse. Donc ouais, c'est un peu difficile justement d'avoir cette mousse qu'on essaie de chercher un peu épaisse par rapport à notre blonde, et vu que c'est la même levure, bah, effectivement faut essayer de jouer sur la densité de mousse alors qu'on a la même souche de levure, donc c'est du travail, mais c'est plutôt réussi.
Tout de suite, ce que je me dis, c'est quand je vois la complexité qu'on a en bouche avec ce travail des maltes, est-ce que vous cuisinez un peu avec vos bières ou c'est pas quelque chose que vous faites ici ?
Oui, bien sûr. Ça fait toujours partie de la politique de l'établissement d'inclure la brasserie. En fait, la brasserie est le cœur de l'établissement. On va faire des Welsh à la bière, on va faire des jarrets. Tous les jarrets que vous mangerez chez nous seront cuits dans de la bière, de notre bière. Et ben, dès qu'on peut, en fait, tout simplement rajouter un peu de bière dans nos plats, ben, on le fait. On a déjà travaillé là avec des restaurateurs qui font des foie gras avec du malt. Très surprenant, mais c'est vraiment bien, c'est vraiment top. On a même un restaurateur qui essaye de faire du pain avec notre levure. Là, c'est des petites choses qu'on essaye comme ça, voilà, de temps en temps, mais c'est plutôt pour partager, pour échanger. C'est pas l'idée d'en faire un business, c'est vraiment voilà, dans l'idée du partager, de l'échange toujours entre passionné, et c'est toujours intéressant de voir bah, là par exemple sa levure dans un milieu d'application totalement différent, de voir une levure qui est vraiment typée et faite pour la bière qui va être faite pour du pain, donc on a hâte de goûter ça, là normalement on va goûter ça cette semaine, on vous tiendra au jus.
Et est-ce que ça pourrait pas même aller plus loin en récupérant les restes de pain et en brassant une bière au pain avec du pain qui aurait été fait avec votre levure?
Waouh, là on est au-delà de la boucle est bouclée, là la boucle est même rebouclée, je peux pas te dire honnêtement, non c'est pas dans les tiroirs, c'est pas dans les projets, mais toujours quand même méga intéressant de partager et de faire partager aussi, enfin de s'intéresser au boulot d'un autre, au métier de quelqu'un, et que quelqu'un aussi porte de l'intérêt au nôtre, et voilà, on arrivera toujours à s'arranger. Moi, ça nous est déjà arrivé de donner du mou par exemple juste après l'empattage, de prendre du mou et de le donner à un chef, et ben chef nous fait des sauces avec, pour accompagner ses plats, ses gibiers, des choses comme ça. C'est vrai que c'est toujours intéressant, au-delà de l'accord mets bière classique, de la zytologie ou biérologie. Là, on a vraiment l'application dans le plat carrément de la bière.
Donc l'intérêt, c'est de venir ici et pas forcément de venir pour la formule qui a fait, je dirais, un peu la renommée de l'établissement auprès des étudiants, entre autres. Mais on peut vraiment venir pour, bah voilà, par exemple, un Wedele à la bière et l'accorder avec une bière. Donc ça peut être aussi l'occasion, je dirais, de goûter le produit dans son intégralité, avec vraiment le travail tout autour de cette bière.
Bah voilà, oui, c'est vraiment, comme dit, c'est un lieu de passionné de bière aussi, justement. Bah, quand on est en train de brasser, que tu viens chez nous le midi, qu'on est en train de brasser, ou bien quand on est en train d'entonner, bah, à part avoir fait la levure, quand on entonne, bah, après, malheureusement, on n'a pas le choix, bah, on n'a rien à faire, quoi. On attend. Donc on s'occupe, on fait de la paperasse, des choses comme ça, mais si on n'a rien à faire, bah, c'est avec grand plaisir qu'on pourra accueillir justement un passionné et lui parler encore plus de nos produits. Comme dit, bah ouais, la cuisine, on essaye de faire corréler cuisine et bière. Toutes les bières ont aussi été faites et les recettes ont été faites pour s'accorder avec bah, la carte, tout simplement. C'est un lieu de passionné, c'est pas un lieu de buverie et de soifard, c'est vraiment un lieu de passionné. Si vous vous intéressez à la bière, de toute façon, vous remarquerez qu'il y a des signatures qui viennent des crafts, quoi, tout simplement, et pas de signatures industrielles.
Donc finalement, le meilleur moyen de profiter de l'établissement, je pense, c'est venir manger le midi, un Wedele braisé à la bière, boire une bière et puis profiter encore des effluves du brassage du matin.
Ah bah là, si t'es passionné de bière, effectivement, je pense que c'est meilleur parcours, on peut pas rêver. Ouais, voilà. La boucle est bouclée, t'as mangé, t'as bu et t'as senti bière, voilà. C'est parfait.
En tout cas, moi je te remercie de m'avoir accueilli ce matin. Je remercie aussi Laurent, bien que lui, il a bossé pendant que toi tu passais du bon temps avec moi. En tout cas, voilà, j'encourage tous les Strasbourgeois ou même les gens qui seraient de passage de venir dans cet établissement et peut-être, comme pour moi aujourd'hui, de le redécouvrir différemment, comme tu nous en as parlé aujourd'hui, de dire effectivement c'est pas juste un endroit où boire beaucoup de bière à pas cher et qu'il y a vraiment beaucoup de choses et il y a un vrai travail d'artisanat et on est vraiment sur de la bière craft finalement, mais de la bière craft peut-être pas au sens moderne du terme mais au sens propre, la bière craft comme elle est, sur place, sur des petites quantités, avec un vrai travail de brasseur et puis surtout une vraie passion.
C'est exactement ça, t'as vraiment tout dit, on est vraiment, on est dans l'esprit craft beer. Après c'est vrai que nos bières, voilà, on va pas axer en fait nos recettes sur le public beer geek, tout simplement parce qu'on l'a pas. Moi je kifferais, hein, je veux pas te cacher, faire des doubles dry hop avec des trucs, j'en sais rien moi, par exemple, avec un mandarina bavaria, quelque chose qui va être très fruité, on aimerait bien, mais malheureusement... on n'a pas le public pour ça, mais après on reste quand même super fiers, on est trop contents de ce qu'on fait, et c'est vraiment le partage, quoi. Venez nous voir avec grand plaisir, généralement on n'est pas derrière notre petite salle de brassage vitrée à tirer la gueule, bien au contraire, s'il y a des gens qui viennent voir, on leur dit allez-y, prenez des photos, vous avez des questions, on est juste devant la porte d'entrée, donc en plus vous pouvez pas nous louper, quoi. C'est vraiment c'est limite si vous entrez dans la brasserie avant d'entrer dans le restaurant, quoi. Donc moi je vous encourage vraiment à venir et puis comme tu disais, c'est cet esprit de caveau où vous venez se mettre des races, hein, pour parler un peu cru, c'est pas ça en fait. Moi je connaissais pas ce passé et là en arrivant, moi j'ai vraiment juste en fait découvert des gens passionnés, quoi. Donc maintenant j'en fais partie, j'en suis d'autant plus fier, mais notre but c'est de faire de la bonne bière et de brasser parce que on aime ça, on vit, on mange, on dort bière, c'est vraiment des passionnés. Mais c'est sûr que si vous voulez du beer geek, malheureusement, c'est pas chez nous qu'il va falloir venir, quoi.
Pour un public beer geek, ça peut aussi être intéressant parce que je pense que dans le parcours d'un beer geek, tu vas forcément avoir un moment où tu vas essayer de t'intéresser au style classique, à des bières plus classiques. Et je pense que ça peut être intéressant à ce moment-là de venir dans ce type d'établissement pour aller sur des bières qui vont, bien sûr, on va pas être sur des choses trop funky ou des gros travail sur les houblons, mais pour goûter des styles classiques bien travaillés, je pense que ça peut être intéressant. Le but du beer geek, c'est toujours de travailler son palais. Tu dis que c'est pas forcément pour un public beer geek. Pourquoi pas ? Parce que dans le parcours beer geek, ça peut être vraiment intéressant de venir ici.
Non, effectivement, si tu cherches en fait, quand je dis beer geek, je pense beaucoup en fait aux jeunes de nos jours qui sont vraiment dans la bière, qui vont beaucoup chez le caviste, mais qui vont acheter vraiment que de l'IPA ou que des sours, qui sont vraiment en ce moment les bières in à la mode, on va dire. C'est sûr que des sours, malheureusement, t'en trouveras jamais chez nous. Ça, après, c'est un choix. Bah voilà, on papote avec Laurent. Laurent est pas du tout pour ces bières-là, fermentation non maîtrisée, spontanée. Lui, il est vraiment pas pour ça. Il y a quand même de l'intérêt à venir, c'est sûr, sur les bières. Il y a un travail sur le malt que d'autres brasseries ne feront peut-être pas. La levure aussi, bah, comme dit, c'est vachement intéressant quand même de voir comment on levure, tout simplement. Ça, vous pouvez venir le voir. Généralement, entre 11h et midi, c'est là où on fait le levurage. Puis, bah, de voir bah, comment on fait, en fait, pour se débrouiller gustativement avec une seule levure et à réussir à sortir 5 bières différentes et qui ont quand même pas du tout le même profil, quoi.
En tout cas, merci encore et puis je te donne rendez-vous le 8 novembre pour goûter la bière de Noël.
À bientôt et avec grand plaisir, on se retrouvera le 8 à l'hôtel de ville de Strasbourg pour faire la percée de la bière de Noël.
Non mais laissez-moi enlever ma moustache.
Et pense à nous soutenir, bah, où vous voulez.